Chapitre 55. Camille à ses côtés, Nietzsche gravit la dizaine de marches qui donnaient accès à la porte du poste de garde de la ville. En réalité, il s'agissait d'une énorme forteresse qui servait aussi de prison. La sœur de l'obscurité n'avait pas demandé à l'adolescent de l'accompagner, mais rien n'aurait pu l'en empêcher, à part le tuer sur place. Comment Richard faisait-il pour s'attirer la loyauté de tant de gens? Décidément, elle ne comprendrait jamais. Bien qu'elle ait été en état de choc en quittant l'immeuble, Nietzsche avait remarqué la surexcitation de tous les résidents. Derrière leurs fenêtres, des voisins et des voisines l'avaient regardé partir en compagnie de Camille, d'autres étaient sortis afin de les voir remonter la rue au pas de charge. Tous semblaient à la fois énervés et accablés. Pourquoi se souciait-il autant du sort de Richard? Et elle, pour quelle raison était-elle affolée à ce point? Le poste de garde crasseux grouillait de monde. Mal rasés, les joues creuses, des hommes y erraient comme des spectres, le regard perdu dans le vide. Sur les bancs, des femmes rondelettes, un foulard sur la tête, pleuraient tout en essayant de calmer les enfants qui s'accrochaient à leurs jupes. D'autres attendaient debout, l'air faussement impassible, comme si elles étaient là pour acheter du pain ou du millet. Encore vêtue de sa chemise, mais sans pantalon au-dessous, un petit garçon solitaire sanglotait, un poing enfoncé dans la bouche. On aurait cru assister à une veillée funèbre. Les gardes de la ville, de jeunes brutes qui se fichaient de la détresse humaine, se frayaient sans ménagement un chemin dans la foule pour gagner les couloirs obscurs surveillés par leurs camarades. Une cloison de bois érigée à la hâte séparait la salle d'attente du hall où des dizaines de défenseurs de l'ordre conversaient entre eux en attendant de faire leur rapport à des supérieurs assis derrière une simple table. À l'évidence, avec l'afflux de prisonniers, les autorités avaient dû improviser. Nietzsche fendit la foule et approcha de la cloison où se pressaient des mères, des épouses et des filles qui espéraient avoir des nouvelles d'un homme aimé. Tout ce qu'elles récoltaient pour le moment, c'était des échardes de bois dans les paumes. Nietzsche saisit au vol la manche d'un garde de passage. S'arrêtant net, il la foudroya du regard comme si elle venait de commettre un sacrilège. Se souvenant qu'elle ne pouvait pas recourir à son pouvoir, la sœur de l'obscurité lâcha le bras du type. Puis-je savoir, s'il vous plaît, qui commande ici? L'homme reluqua impudemment Nietzsche. Une femme si jolie qui serait bientôt veuve avait tout pour l'intéresser. Du coup, il se fendit d'un sourire. L'homme assis au milieu, c'est le protecteur du peuple Muskin. D'un certain âge, et franchement obèse, Muskin trônait derrière une montagne de documents. Affublé d'un énorme double menton, il semblait dégouliner sur sa chaise comme un tas de seins doux qui fond au soleil. Sa chemise blanche constellée de taches de sueur, il devait largement contribuer à la puanteur qui régnait dans la salle. Des gardes se penchaient pour murmurer à l'oreille du protecteur, dont les petits yeux porcins tournaient sans cesse de droite à gauche, comme s'il lui était impossible de fixer quelque chose. Les hommes assis autour de lui travaillaient sur de mystérieux formulaires, parlaient entre eux ou écoutaient les comptes rendus d'autres gardes. Muskin observait tout sans jamais s'attarder sur rien. Quand ses yeux se posèrent sur Nietzsche, il ne lui accorda pas plus d'une seconde d'attention. Tous les citoyens de l'ordre pour lui étaient égaux dans leur insignifiance. « Je voudrais lui parler, c'est très important. » Le sourire séducteur du garde devint un rictus ironique. « Tout le monde dit ça, ma belle. T'as vu la queue derrière toi ? Va donc y prendre ta place tout au bout. » Nietzsche et Camille durent se résigner à attendre. Pour les avoir trop fréquentés, la sœur de l'obscurité savait que faire un esclandre face à ses fonctionnaires était le meilleur moyen de ne rien obtenir, car ils adoraient débouter les gens qui se montraient trop nerveux. La queue n'avançait pas, et pour cause puisque les hommes assis à la table n'appelaient personne. Voyaient-ils seulement les citoyens angoissés qui attendaient d'en apprendre plus sur un proche? Nietzsche n'aurait pas misé gros là-dessus. Elle s'appuya contre un mur crasseux et Camille vint se placer à côté d'elle. Les heures passèrent sans que la file avance d'un pas. « Camille, souffla Nietzsche, tu n'es pas obligé de rester avec moi, rentre donc chez toi. »«
Non, je veux attendre. Moi, je me soucie vraiment de Richard. »
Une accusation à peine voilée.
« Tu crois que je me désintéresse de lui ? Que ficherais-je ici, dans ce cas ? Je suis venu te chercher parce que j'avais peur pour Richard, et personne d'autre à qui demander de l'aide. Je ne crois pas un instant que tu t'inquiètes pour lui, mais je n'avais pas le choix. Tu ne m'aimes pas beaucoup, pas vrai? On peut le dire comme ça, ouais. Puis-je te demander pourquoi?
Camille regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Mais les gens ici avaient déjà assez à faire avec leurs propres problèmes.
Tu es sa femme et pourtant tu l'as trahie en couchant avec Gadi. Pour moi, tu ne vaux pas mieux qu'une catin.
Nietzsche en sursauta de surprise. Avant de continuer, Camille regarda de nouveau autour de lui.
Personne ne comprend pourquoi Richard est avec toi. Toutes les célibataires de l'immeuble et même de la rue m'ont assuré qu'elles rêvaient de l'épouser et qu'elles ne regarderaient plus un autre homme si elles avaient cette chance. Elles ne comprennent pas pourquoi tu as fait tout ça. Tout le monde était triste pour lui, mais il ne nous a pas permis de le consoler.
Nietzsche détourna les yeux. Incapable de regarder plus longtemps en face, un adolescent qui venait de la traiter de catin et qui avait hélas raison.
Tu ne comprends pas ce qui s'est passé,
souffla-t-elle. Du coin de l'œil, elle vit Camille hausser les épaules.
Pour ça, tu as raison. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à un mari comme Richard, qui travaille dur et s'occupe si bien de toi. Pour agir ainsi, il faut être une mauvaise personne qui se fiche de son époux. Je ne me fiche pas de lui, Camille,
dit Nietzsche des larmes aux yeux.
Tu me crois?
L'adolescent ne répondit pas. Tournant la tête, la sœur de l'obscurité comprit qu'il avait trop honte pour elle ou lui en voulait trop pour la regarder dans les yeux.
Camille, tu te souviens du moment où nous sommes venus vivre dans l'immeuble?
Le jeune homme hocha la tête.
Au début, Nabi et toi vous êtes moqués de Richard. Vous l'avez menacé avec vos couteaux, puis insulté. Une terrible erreur,
marmonna Camille, visiblement sincère.
Eh bien, moi aussi, j'ai fait une erreur.
Nietzsche ne se donna pas la peine de cacher qu'elle pleurait. Dans la salle, presque toutes les femmes étaient en larmes.
Nous nous étions disputés. Je ne peux pas te dire pourquoi, et j'étais furieuse. J'ai voulu lui faire mal, et c'était stupide. Une très lourde faute.
Camille regarda Nietzsche de biais tandis qu'elle se tamponnait les yeux avec un mouchoir.
J'admets que c'est une erreur plus grave que la vôtre, quand vous jouiez au dur avec Richard. Mais le principe est le même. Je voulais paraître plus forte que lui, comme vous. Tu ne désirais pas Gadi? Il me répugnait. Je me suis servi de lui parce que j'en voulais à Richard. Et tu le regrettes? Bien entendu. Tu ne le referas pas si vous vous disputez encore? Non. Je me suis excusé auprès de Richard. Et j'ai juré de ne plus recommencer. Crois-moi, je ne mentais pas.
Camille réfléchit à tout ça en regardant une femme qui secouait violemment un enfant sans parvenir à le calmer, sans doute parce qu'il voulait être pris au bras. Quand elle se pencha et lui murmura quelques mots à l'oreille, le gosse se blottit contre ses jambes en boudant, mais il cessa de pleurer.
Si Richard t'a pardonné, je n'ai pas le droit de t'en vouloir. C'est ton mari et cette affaire ne concerne que vous.
Camille tapota le bras de Nietzsche.
Tu as mal agi, mais c'est terminé. Alors ne pleure plus à cause de ça. Nous avons des soucis plus urgents.
Nietzsche sourit à travers ses larmes.
Nabi et moi avons dit à Gadi que nous allions lui couper, eh bien, ce que tu sais, parce qu'il avait fait du mal à Richard. Mais il a sorti son couteau pour qu'on le laisse passer et il sait y faire avec une lame. Nous l'avons laissé filer et en partant, il a dit qu'il allait s'engager dans l'armée. Il était content à l'idée de tailler en pièces des ennemis, de devenir un héros et d'avoir toutes les femmes qu'il voudrait. Je ne serai pas la seule à regretter de l'avoir rencontré. C'est une certitude.
En fin d'après-midi, le protecteur Muskin consentit à donner des audiences. À force de rester debout, Nietzsche avait mal au dos, mais ce n'était rien comparé à son inquiétude pour Richard. La file avança très vite, car le protecteur ne tolérait pas qu'on lui tienne de longs discours. Dans le meilleur des cas, il baissait les yeux sur ses documents et marmonnait quelques mots que Nietzsche ne parvenait pas à entendre à cause du vacarme ambiant. Quand le tour de la sœur de l'obscurité arriva, un garde repoussa Camille.
« Une seule personne à la fois, c'est le règlement. »
Nietzsche fit signe à l'adolescent de l'attendre et de ne pas s'énerver. La prenant chacun par un bras, deux colosses la traînèrent jusque devant la table.
Être traitée ainsi, comme une citoyenne ordinaire, l'irrita au plus haut point.
Ayant toujours eu une certaine autorité, elle ne s'était jamais demandé ce qu'on éprouvait quand on était personne.
Et dire qu'elle avait voulu montrer à Richard la vie des gens ordinaires.
Mais lui s'y était parfaitement adapté.
Les gardes restèrent sur ses flancs au cas où elle ferait du grabuge.
Humiliée, Nietzsche sentit qu'elle s'empourprait.
« Protecteur Muskin, mon mari a été... »«
Son nom !»
coupa l'obèse. Il étudiait la queue des requérants, se demandant dans combien de temps il pourrait aller dîner.
« Richard !»«
Son nom complet !»«
Richard Cypher, il a été interpellé hier soir. »
Nietzsche préféra ne pas utiliser le verbe « arrêter » pour ne pas dramatiser encore les choses.
Muskin consulta ses documents. Jusque-là, il avait à peine accordé un regard à la sœur de l'obscurité. D'habitude, les hommes la déshabillaient des yeux, imaginant ce qu'ils feraient avec elle au lit. Bien entendu, ces idiots croyaient qu'elle ne s'apercevait de rien. Comme les deux gardes qui sondaient discrètement son décolleté.
« Ah !» s'écria le protecteur. « Vous avez de la chance !»«
Il a été libéré ?»«
Pas du tout, mais son nom est sur la liste. » On détient des gens un peu partout en ce moment. Les protecteurs ne peuvent pas savoir où ils sont tous.
« Merci, » dit Nietzsche, sans savoir pourquoi elle congratulait l'ignoble type. « De quoi est-il accusé ?»«
Comment le saurions-nous, puisqu'il n'a pas encore avoué ?»
Nietzsche sentit ses jambes se dérober. Plusieurs femmes s'étant évanouies devant le protecteur, les gardes lui tinrent plus fermement les bras.
Muskin leur fit signe que l'entretien était terminé.
Mais la sœur de l'obscurité parvint à parler avant qu'on l'emmène.
« Protecteur Muskin, mon mari n'a rien fait de mal. Il travaille dur et ne médit jamais de personne. C'est un homme d'honneur qui tient toujours sa parole. »
Un bref instant, Muskin sembla concerné par ses propos.
« Il a une qualification. »
« Richard est un travailleur très précieux pour l'ordre impérial. Il charge et décharge des chariots. »
Avant d'avoir fini sa phrase, Nietzsche comprit que cette réponse était une erreur.
Agitant vaguement une main, Muskin la congédia, ou plutôt la chassa comme si elle était un vulgaire moustique.
Les deux gardes la soulevèrent par les bras et l'entraînèrent loin du regard courroucé du fonctionnaire.
« Mon mari est un brave homme !»
cria Nietzsche.
« Par pitié, protecteur Muskin, il n'a rien fait de mal. Pendant les troubles, il n'est pas sorti de chez nous. »
Un plaidoyer sincère. Comme tous ceux des femmes qui avaient précédé la sœur de l'obscurité. Furieuse de ne pas avoir convaincu Muskin que son mari était différent, elle avait cependant conscience que toutes les autres épouses devaient avoir tenu le même discours. Camille courut derrière les deux gardes qui traversèrent un couloir obscur, puis ouvrirent une des portes latérales de la forteresse. Sans ménagement, ils poussèrent Nietzsche dehors. Dévalant les marches, elle s'étala dans la poussière et fut vite rejointe par Camille, lui aussi éjecté comme un malpropre. La sœur de l'obscurité se releva à demi, aida l'adolescent à se redresser et regarda les deux hommes debout en haut de l'escalier.
« Et mon mari ? »
lança-t-elle.
« Comment savoir ce qu'il est devenu ?»«
Reviens plus tard, »
lâcha un des types.
« Quand il aura avoué, le protecteur pourra te dire de quoi il est accusé. »
Connaissant Richard, Nietzsche était sûr qu'il ne confesserait pas des crimes imaginaires.
« Je ne pourrai pas le voir, au moins. »
implora-t-elle, toujours agenouillée près de Camille.
« S'il vous plaît !»
Un des hommes marmonna quelques mots à l'oreille de l'autre.
« Tu as de l'argent ? »
demanda-t-il ensuite à Nietzsche.
« Non !»
gémit la sœur de l'obscurité. Les gardes se détournèrent.
« Attendez !»
cria Camille. Voyant que les hommes s'immobilisaient, il gravit les marches 4 à 4, s'arrêta près d'eux, remonta une jambe de son pantalon et retira une botte. Sans hésiter, il en sortit une pièce d'argent qu'il tendit à l'un des gardes.
« Ce n'est pas assez pour une visite, »
dit l'homme, l'air déçu.
« J'en ai une autre chez moi. Laissez-moi une heure et je serai de retour avec. »
« Inutile de te presser, mon gars. Pour ceux qui peuvent payer, les visites sont prévues après-demain, au coucher du soleil. Une seule personne à la fois, bien entendu. »
Camille désigna Nietzsche.
« C'est sa femme qui ira le voir. »
Le garde regarda la sœur de l'obscurité, se demandant à l'évidence si elle était prête à payer en nature, au cas où deux pièces d'argent ne suffiraient pas.
« Mais n'oubliez pas le paiement !»
lança-t-il avant de rejoindre son camarade déjà dans le couloir. La porte se referma avec un grincement sinistre. Camille dévala les marches, approcha de Nietzsche et l'aida à se relever.
« Qu'allons-nous faire? Il va être entre leurs mains pendant 2 jours, 2 jours entiers !»
L'adolescent tremblait d'angoisse. Bien qu'il ne l'eût pas dit, Nietzsche savait à quoi il pensait. 2 jours de torture pour arracher des aveux à Richard. Ensuite, il ne resterait plus qu'à l'inhumer dans le ciel.
« Camille, écoute-moi bien. Richard est très fort et il tiendra le coup. Il en a vu d'autres, crois-moi. Tu sais qu'il est capable de résister à tout. »
Camille acquiesça, puis se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. En vain. Savoir son ami en danger refaisait de lui un enfant sans défense. La première nuit, Nietzsche ne ferma pas l'œil. Le lendemain, elle alla faire la queue devant la boulangerie et songea, accablée, qu'elle devait avoir le même air dévasté que les autres femmes. Désorientée et angoissée, la sœur de l'obscurité ne savait plus que faire. Son univers semblait s'être écroulé et sa combativité naturelle l'abandonnait. La seconde nuit, elle dormit moins de 2 heures. Surexcitée, elle passa le reste du temps à compter les minutes qui la séparaient du lever du soleil. Quand l'aube fut venue, elle s'assit à la table, les yeux rivés sur la miche de pain qu'elle avait achetée pour Richard. Vers midi, sa voisine, maîtresse Charim, lui apporta une assiette de soupe aux choux. En mangeant, Nietzsche remercia la brave femme et assura que la soupe était délicieuse. En réalité, elle aurait été incapable de dire quel goût elle avait. Dès le début de l'après-midi, elle décida d'aller patienter devant la forteresse. Quand elle sortit de chez elle, Camille l'attendait au milieu d'une petite foule de gens angoissés.
« J'ai la pièce d'argent !»
annonça-t-il dès qu'elle l'eut rejoint. Nietzsche aurait voulu dire à l'adolescent qu'elle paierait elle-même, mais il lui restait à peine 3 sous de cuivre.
« Merci, Camille. Je me débrouillerai pour te rembourser. Pas question. C'est pour Richard, ma façon de l'aider et de lui prouver mon amitié. »
Nietzsche hocha simplement la tête. Alors qu'elle avait consacré sa vie à secourir les autres, elle aurait pu se dessécher sur pied avant que quelqu'un sacrifie une piécette pour elle. Mais comme le lui avait appris sa mère, on ne devait jamais attendre de récompense quand on se montrait généreux. Alors que Nietzsche s'éloignait, des voisins vinrent lui souhaiter bonne chance. Ils la prièrent de dire à Richard de tenir le coup, demandèrent si elle avait besoin d'argent et lui assurèrent qu'il répondrait présent s'il lui fallait quelque chose. L'ordre détenait Richard depuis 2 jours, et la sœur de l'obscurité ignorait s'il était encore vivant. Au fond, il était possible qu'on l'ait exécuté, ou qu'il agonise, brisé par les méthodes des tortionnaires de Jagang, qu'elle était fort bien placée pour connaître. Quand elle arriva devant la porte latérale, une demi-douzaine de femmes et quelques hommes d'âge mûr attendaient déjà en silence sous un soleil de plomb. Toutes les épouses ou les mères portaient des sacs de nourriture. Nietzsche et Camille restèrent côte à côte jusqu'au crépuscule. Puis l'adolescent tendit son outre d'eau à la femme de Richard.
« Il vaudra sans doute boire un peu en mangeant le pain et le poulet que tu lui apportes. »«
Merci, » souffla Nietzsche.
Quand la porte s'ouvrit en grinçant, tout le monde releva la tête. Campé sur le seuil, un garde fit signe aux visiteurs d'approcher. Une première femme s'engagea dans l'escalier. L'homme leva une main pour lui ordonner de s'arrêter, puis il lui demanda son nom. Quand elle lui répondit, il consulta la liste qu'il tenait, puis lui indiqua qu'elle pouvait entrer. La deuxième femme n'eut pas cette chance. Indignée d'être obligée de rebrousser chemin, elle hurla qu'elle avait payé pour voir son mari. Impassible, le garde lui annonça que son époux, accusé de haute trahison sur la base de ses aveux, n'avait plus le droit de recevoir des visites. La femme se laissa tomber dans la poussière. Sous le regard inquiet de ses compagnes et compagnons de malheur, qui redoutaient de s'entendre dire la même chose, elle éclata en sanglots. La troisième et la quatrième femme furent autorisées à entrer. La cinquième apprit de la bouche du garde que son mari était mort. Comme dans un cauchemar, Nietzsche se dirigea vers les marches. La retenant par le bras, Camille lui glissa une pièce d'argent dans la main.
« Dis à Richard que... dis-lui simplement de revenir vite à la maison. »« Merci, Camille. »«
Le nom du prisonnier ?»
demanda le garde quand la sœur de l'obscurité fut en haut de l'escalier.
Richard Cypher.
L'homme consulta sa liste puis fit signe à la visiteuse d'entrer.
Ce garde va vous conduire à lui.
Nietzsche en soupira de soulagement. Richard était toujours vivant.
Suivez-moi,
dit le soldat qui attendait dans le couloir obscur. Il avança, une lampe dans chaque main, puis descendit deux volées de marches qui débouchaient dans un sous-sol mal éclairé et puant la moisissure. Il guida Nietzsche jusqu'à une petite pièce où le protecteur Muskin, à la lueur d'une torche, s'entretenait avec deux fonctionnaires. Descend grade à voir la déférence qu'il manifestait à l'important personnage. Muskin jeta un coup d'œil au document que lui tendit le garde, puis il se leva.
« Vous avez l'argent ? »
demanda-t-il.
« Oui, »
répondit Nietzsche. Elle donna la pièce au protecteur qui l'empocha après lui avoir jeté un rapide coup d'œil.
« L'amende pour infraction au code civil est plus élevée que ça, » dit-il.
L'espoir renaquit en Nietzsche. En réglant le pot de vin pour la visite, elle avait triomphé de la première épreuve. À présent, le protecteur, dont la cupidité n'avait pas de bornes, voulait monnayer la vie de Richard.
« Je le sais, protecteur, et je parviendrai à réunir la somme. »
« Un homme doit prouver que son repentir est sincère. Verser une amende qui le met sur la paille est un bon moyen de montrer qu'il regrette d'avoir violé la loi. S'il mégote, nous savons qu'il ment. » Dans deux jours, tous ceux qui auront avoué cette infraction, et dont on aura réglé l'amende, passeront devant moi pour connaître leur sort.
Muskin avait donné son prix, tout ce que possédait Richard.
Nietzsche aurait voulu lui déchirer la gorge avec ses dents, mais elle parvint à se maîtriser.
Merci de votre compréhension, protecteur Muskin. Si vous me permettez de le voir, je ferai en sorte qu'il regrette son acte, croyez-moi.
Une excellente idée, jeune dame. Quand ils restent trop longtemps ici, face à face avec leur culpabilité, les hommes finissent par avouer d'atroces crimes.
Je comprends, protecteur Muskin.
L'allusion était limpide. Tant que l'amende n'aurait pas été payée, on continuerait à torturer Richard. Ses deux lanternes dans une seule main, le garde prit Nietzsche par le bras et l'entraîna dans un couloir noir comme de l'encre. Au pied d'un très long escalier, il tira la visiteuse à travers un dédale d'étroits corridors. Les cellules étaient construites au cœur même des entrailles de la forteresse. Avec la proximité du fleuve, de l'eau s'infiltrait partout, et l'odeur de moisissure était insupportable. Comme dans un égout, des rats détalaient à l'approche des deux intrus qui osaient s'aventurer dans leur royaume. De l'eau boueuse jusqu'aux chevilles, Nietzsche repensa aux cauchemars qu'elle faisait souvent dans son enfance. Ce lieu ressemblait vraiment au royaume des morts. Cet endroit où, selon sa mère, finissaient tous ceux qui ne consacraient pas leur vie à aider les autres. Toutes les portes basses, le long des couloirs, étaient munies d'un petit guichet pour que les gardes puissent surveiller à tout moment les prisonniers. Les cellules n'étant pas éclairées, sauf quand un geôlier traversait les couloirs avec une lanterne, les détenus passaient la plus grande partie de leur temps dans le noir. En remontant les corridors, Nietzsche vit plusieurs paires d'yeux écarquillés briller derrière les guichets, et elle entendit un concert de cris d'angoisse et de souffrance.
« Nous y sommes !» dit le garde en s'arrêtant devant une porte.
Le cœur battant la chamade, Nietzsche attendit. Au lieu d'ouvrir la cellule, le soldat se tourna vers elle et lui plaqua les mains sur les seins. Pétrifiée, elle se laissa peloter, l'homme tâtant sa poitrine comme s'il avait voulu vérifier la qualité de deux melons sur l'étal d'un marchand. Craignant qu'il refuse de la laisser voir Richard, Nietzsche ne se défendit pas, même quand le type glissa les doigts dans son décolleté et lui pinça douloureusement les tétons. Les brutes de ce genre étaient indispensables pour que l'ordre impose sa philosophie au monde entier. Avant de penser à la rédemption, il fallait regarder en face la perversion consubstantielle de l'humanité. Bref, les salauds étaient nécessaires quand on entendait élever le niveau de moralité des masses. Le garde gloussa, content de son exploration, puis il se tourna vers la porte. Après avoir lutté un moment contre la serrure rouillée, il parvint à faire tourner la clé et tira d'un coup sec sur le battant qui s'entrebâilla juste assez pour laisser passer Nietzsche.
« Quand je me serai occupé de deux ou trois choses, »
dit le soldat en suspendant une de ses lanternes à un piton.
« Je reviendrai, et la visite sera terminée. Inutile de remonter tes jupes pour ton homme, il n'est pas en état d'en profiter. »
Il poussa Nietzsche dans la cellule.
« Regarde qui je t'amène, Cypher, une belle poulette toute frétillante. »
L'homme referma la porte, la verrouilla, puis s'éloigna d'un pas traînant dans le couloir. La cellule au plafond très bas était presque aussi étroite que le corridor. Oppressé, Nietzsche faillit taper à la porte pour demander à sortir. L'homme recroquevillé sur le sol, respirait-il encore? Richard? Un gémissement apprit à la sœur de l'obscurité que son prisonnier vivait toujours. Les mains liées dans le dos, il reposait dans une flaque de boue où il aurait tout aussi bien pu se noyer. Des larmes aux yeux, Nietzsche s'agenouilla.
« Richard ?»
Elle prit le sourcier déchu par l'épaule pour le tourner de son côté. Avec un cri de douleur, il se dégagea et se recroquevilla contre le mur. Quand elle vit son visage, Nietzsche dut se plaquer les mains sur la bouche pour ne pas crier.
« Richard !»
La sœur de l'obscurité se releva, déchira un morceau de son jupon, puis s'agenouilla et entreprit de nettoyer le sang qui maculait les joues de Richard.
« Tu m'entends ? C'est moi, Nietzsche. »
« Oui, Nietzsche. » Un œil tuméfié et fermé, les cheveux souillés de boue, Richard n'était plus vêtu que de haillons. À la lumière de la lanterne, Nietzsche vit qu'il était couvert de plaies.
« J'ai peur que tu ne puisses pas repriser cette chemise, » souffla Richard.
Nietzsche eut un pauvre sourire. Les mains tremblantes, elle continua à nettoyer le visage de son prisonnier.
Pourquoi réagissait-elle ainsi? Elle avait vu bien pis que ça.
Richard inclina la tête sur le côté pour échapper à ses soins pourtant attentionnés.
« Je te fais mal ?»«
Oui. »
« Désolé, je t'ai apporté de l'eau. »
Voyant briller le regard de son prisonnier, Nietzsche déboucha l'outre et le fit boire, prenant garde à ce qu'il ne s'étrangle pas tant il était assoiffé.
« Camille m'a donné 2 pièces d'argent pour que je puisse venir te voir. Il a hâte que tu sortes d'ici. »«
Pas autant que moi, »
souffla Richard d'une voix qui ne lui ressemblait pas. Un pauvre petit filet à peine audible.
« Le protecteur... »
« Qui ça ?»«
Le fonctionnaire responsable de cette prison. Selon lui, tu as un moyen de t'en sortir. Tu dois plaider coupable d'infraction au code civil et payer une amende. »
« Je m'en doutais. Il m'a demandé si j'avais de l'argent et j'ai répondu que oui. »«
C'est vrai ? Tu as des économies ?»«
Oui. »«
Richard, je ne pourrai pas payer avant 2 jours. Tu tiendras le coup. Dis-moi que tu résisteras. »
« Ne t'inquiète pas, je serai toujours là quand tu reviendras. »
Nietzsche sortit la miche de pain de son sac.
« Je t'ai apporté à manger, du pain et du poulet rôti. »
« Le poulet d'abord. On ne nous nourrit pas, le pain ne me fournira pas assez de force. »
Nietzsche coupa le poulet avec ses doigts et donna la béquille à Richard. Le voir dans cet état de faiblesse et d'impuissance lui serrait le cœur.
« Mange !»
implora-t-elle quand il baissa la tête, comme s'il allait s'endormir.
« J'en ai encore beaucoup. Tu arrives à te reposer dans cette boue ?»«
On ne nous laisse pas de répit. Ces gens... »
Nietzsche poussa un morceau de poulet dans la bouche de Richard. Elle connaissait parfaitement les différentes techniques d'interrogatoire de l'ordre. Savoir laquelle on appliquait dans le cas de Richard ne l'intéressait pas.
« Je vais te sortir de là, »
dit-elle.
« Surtout ne baisse pas les bras. »«
Pourquoi ? Tu es jalouse parce que d'autres me malmènent à ta place ? Aurais-tu peur qu'ils me tuent avant toi ?»«
Richard, je... »«
Je ne suis qu'un individu. Seul le bien commun importe. Mon innocence ne compte pas parce qu'une seule vie n'a aucune valeur. Si je dois souffrir et mourir pour que des pécheurs se convertissent et vénèrent le Créateur... » En quoi cela te dérange-t-il? Que valent nos souhaits face à l'idéal de l'ordre?
Et comment peux-tu placer ta survie ou la mienne au-dessus de celle de l'humanité ? Nietzsche avait servi ce sermon à Richard des dizaines de fois. Dans la bouche du sorcier, il semblait mesquin, méprisant et néfaste. À cet instant, la sœur de l'obscurité se détesta d'être tellement touchée par cet homme. Enfin, il ridiculisait tout ce que prônait l'ordre, l'idéal pour lequel elle avait lutté toute sa vie. Avec lui, le bien devenait le mal et inversement. Voilà pourquoi il était si dangereux. Sa seule existence menaçait tout ce qu'elle tenait pour positif et utile. Nietzsche n'avait jamais été si près de découvrir ce qu'elle cherchait désespérément. Les larmes qui ruisselaient de ses yeux prouvaient qu'elle vivait un moment capital. L'étincelle qu'elle avait vue briller dans le regard de Richard le premier jour au palais des prophètes n'avait rien d'une illusion. Si elle parvenait au terme de sa quête ce soir, elle pourrait faire ce qui s'imposait. Pour Richard, ce serait un bien. Quel avenir l'attendait? Combien de souffrances pourrait-il encore encaisser avant de craquer? Oui, le tuer aurait été une bonne action. Regarde autour de toi, Nietzsche. Tu voulais me montrer la splendeur de l'ordre impérial. La vois-tu ici? Avec son œil fermé, Richard semblait si misérable. Une fois encore, Nietzsche en eut le cœur serré.
Richard, il me faut tes économies. Pour te sauver, c'est indispensable. Le protecteur veut que tu lui verses tout ce que tu as.
L'argent est dans notre chambre.
Où? Dis-moi où tu l'as mis.
Tu risques de ne pas le trouver. Si on ne connaît pas le truc, ouvrir la cachette est impossible. Va voir Ishak.
L'homme de la compagnie de transport? Pourquoi?
C'était son salon jadis. Il y a un compartiment secret dans le plancher. Dis-lui pourquoi tu veux l'argent et il l'ouvrira pour toi. Nietzsche donna un nouveau morceau de poulet au sourcier.
Très bien, j'irai voir Ishak. Richard, eh bien, je suis navré que tu doives sacrifier tes économies. Je sais que tu as travaillé dur, il n'est pas juste qu'on te dépouille.
Je préfère être pauvre et vivant que riche et mort. Nietzsche essuya ses larmes et sourit. C'était la meilleure chose qu'elle pouvait espérer entendre. À cet instant, la porte s'ouvrit.
Remonte tes jupes, femme!
Cria le garde.
La visite est terminée!
Alors que la brute la tirait impitoyablement par le bras, Nietzsche glissa un dernier morceau de poulet entre les lèvres de Richard.
« Infraction au code civil »
lança-t-elle.
« Surtout n'oublie pas !»
Pour ce délit-là, une amende suffirait. Tous les autres conduisaient à la potence.
« Je m'en souviendrai, n'aie pas peur !»
Alors que le garde la tirait dehors, Nietzsche tendit une main vers Richard.
Je reviendrai te chercher, c'est promis. Ne perds pas espoir, c'est tout ce que je te demande.